chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
Je vous invite à poursuivre le voyage autour du monde en compagnie des peuples autochtones. Vous avez entendu parler de la COP21, celle qui s'est tenue à Paris en 2015. Vous savez, ces gouvernements et ces gens importants qui se réunissent en grande pompe régulièrement pour évaluer l'état de la planète et prendre des décisions. Et finalement, pour ne rien décider, ou presque. Eh, c'est que ça pourrait risquer de perturber le jeu financier des irresponsables qui décident pour nous. Et la Convention pour le climat. Il est toujours question, officiellement, de tracer les lignes de conduite pour que la dégradation de notre environnement ne finisse pas par rayer l'espèce humaine, entre autres, de la surface de notre bien-aimée Terre. Mais ça bégaye ferme dans ces instances. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des peuples qui habitent Tuvalu, dans l'océan Pacifique, et qui voient leurs îles peu à peu rétrécir par la montée des eaux due au changement climatique. Et c'est l'occasion de parler des futurs réfugiés climatiques. C'est qu'on prévoit, selon Norman Mears, scientifique considéré comme l'un des experts sur le sujet, 150 à 200 millions de réfugiés environnementaux d'ici 2050. Qui va les accueillir ? De géographie. Tuvalu est un archipel polynésien au centre de l'océan Pacifique, constitué de 9 atolls coralliens. Certes, ce sont de très petites îles, étirées sur 680 km. L'archipel a une surface émergée de 26 km². Pour vous donner une idée, l'île de Ré fait 85 km². Et la population s'élève à environ 12 300 habitants. Une poussière au regard de la population mondiale. De plus, l'archipel abrite 1526 espèces d'animaux. L'eau à Tuvalu est montée de 3 mètres en 10 ans. et les îles culminent à 5 mètres. Autant dire que le risque de disparaître est maximum pour les habitants de ces territoires. Voici ce qu'en dit le GIEC. La montée du niveau des mers et des océans est une conséquence directe du réchauffement de la planète. Les observations depuis 1961 montrent que la température moyenne de l'océan mondial a crû jusqu'à des profondeurs d'au moins 3000 mètres et que l'océan a absorbé plus de 80% de la chaleur ajoutée au système climatique. Un tel réchauffement provoque une expansion de l'eau de mer, contribuant à l'augmentation de son niveau. À ce phénomène d'expansion thermique des océans, il faut ajouter la fonte des glaciers et des calottes de glace, celle des banquises du Groenland et de l'Arctique. Mais, comme vous vous en doutez, les Tuvaluans ne sont pas les seuls à être menacés. Et pour en revenir à Tuvalu, justement, du coup, tout ça n'encourage pas les touristes à venir faire un tour. Des fois qu'il y ait une brusque montée des eaux. Pourtant, Tuvalu a tout pour plaire. Mer couleur turquoise, des plages de sable fin, bordées de palmiers, une eau transparente et de magnifiques récifs coralliens. Bon, il y a bien eu la visite du duc et de la duchesse de Cambridge. Oui, Tuvalu fait partie du Commonwealth. Mais c'est un peu court. Bref, qui sont donc ces êtres humains dont on prévoit la disparition totale d'ici quelques années? Les Tuvaluans sont des Austronésiens, et les Austronésiens sont parmi les plus anciens navigateurs de l'histoire de l'humanité. La plupart sont Polynésiens et sont arrivés tardivement de Samoa surtout. Certains sont des Micronésiens et semblent avoir été les tout premiers installés avant d'être envahis par les Polynésiens. C'est au cours de ces grandes migrations, intervenues il y a au moins 5000 ans, à partir du sud de la Chine, en plusieurs étapes, étalées sur 3000 ans, que le peuplement a eu lieu. Rapidement, sachez que Tuvalu, après avoir été colonisé par les Britanniques, est aujourd'hui une monarchie parlementaire et la reine Elisabeth II en est le chef d'État. Mais le système communautaire traditionnel se maintient encore. Chaque famille a sa propre tâche, ou sa langa, à exécuter pour la communauté, telles que la pêche, la construction de maisons ou la défense. Et les qualifications d'une famille sont transmises de père en fils. La danse et le football sont les loisirs les plus populaires au Tuvalu. Tous les soirs, les résidents de l'archipel se rejoignent sur l'île pour faire du sport et danser. Il y a une grande proximité de traditions, de coutumes, de croyances, d'organisations sociales entre tous les Polynésiens d'Hawaï à Tahiti, des îles Salomon à l'île de Pâques. Mais ceci n'empêche pas que chaque petite île de Tuvalu a son histoire, comme celle de Nui, par exemple. L'île Nui se compose de 11 principaux îlots séparés par des passages à travers lesquels la mer passe librement de l'océan au lagon. Quand la marée est basse, les habitants peuvent marcher à travers ces passages d'îlot en îlot. Le récif de corail qui relie les îlots à environ 200 mètres de large est le plus grand à environ 2 km de long. Sur ces îlots poussent des arbres tels que les cocotiers, l'arbre à pin ou le pandanus. Les cultures vivrières telles que le babaï, tororo ou béro poussaient en abondance, tandis que le lagon, les récifs et l'océan fournissaient de grandes quantités de poissons frais. On raconte que Nui a été créée par un groupe d'esprits qui parcourait l'océan. Un jour, ils décident de se reposer et pour cela, ils plongent dans les profondeurs de l'océan pour remonter des pierres, de la boue et du sable pour former des tas à la place qu'ils ont occupée pour se reposer, créant ainsi des îlots. C'est de cette façon que Nui et de nombreuses autres îles ont été faites, dit-on.
Donne les mamina donne, ou baba 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 donne. Ludona donna du mache donne ma.
Devenir les Tuvaluans. Les 9 atolls ont déjà vu disparaître 3 mètres de front de mer. L'eau de mer se mêle aux nappes d'eau douce et salinise les sols. Les coraux se dévitalisent. Les réserves de poissons s'amoindrissent. Il est de plus en plus difficile de cultiver de quoi nourrir la population qui vit les pieds dans l'eau plusieurs semaines par an. À plusieurs reprises, les Tuvaluans ont dû évacuer momentanément leurs îles lors des marées de fortes eaux. Un plan de sauvetage a été proposé. Construire des digues et rehausser le niveau du sol, ce qui coûterait des centaines de millions de dollars, que les Tuvalu n'ont pas, et que personne n'est disposé à offrir. Lors de la COP de Copenhague de 2009, les chefs d'État et diplomates de près de 200 États se sont réunis pour trouver un accord politique et financier efficace afin de lutter contre le réchauffement climatique. On peut lire dans un document de France Terre d'Asile sur ce sujet que, selon la Banque mondiale, les pays industrialisés subiront les conséquences du réchauffement climatique à hauteur de 2%, alors que 98% des 325 millions de personnes victimes de ces conséquences directes se trouvent dans les pays en développement. Les difficultés se trouvent bien encore et toujours dans les pays pauvres. Les rapports prévisionnels s'accumulent, mais depuis 20 ans, rien n'est fait pour se préparer à l'exode forcé de plusieurs millions de personnes, déplacés à cause de la montée des eaux, de l'avancée des déserts ou encore de la salinisation des sols. Ce sont précisément les risques humains liés aux conséquences du réchauffement climatique qui sont en jeu. Les dirigeants vont devoir se pencher sur le sort des réfugiés climatiques. Lors de cette conférence de Copenhague, le premier ministre des Tuvalu a rappelé que les Tuvalu étaient menacés par la montée des eaux. Et certains scientifiques assurent que les Tuvalu disparaîtront vers la fin du siècle, totalement engloutis par la montée des eaux. Je crois qu'il faut que je vous donne une définition de COP pour éclairer nos lanternes. Une COP est une grande conférence internationale sur le climat qui réunit les États engagés depuis 1992 par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. COP signifie Conference of Parties, les parties étant les signataires de la Convention, c'est-à-dire 195 pays plus l'Union européenne. L'objectif est de faire le point sur l'application de la Convention et négocier de nouveaux engagements. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce pronostic de disparition. En 2018, un géologue, Paul S. Kench, doyen de la faculté des sciences de l'université Simon Fraser à Vancouver, a publié le diagnostic inverse, après avoir étudié 4 décennies de données. Selon lui, les 3/4 des 101 îles, îlots, qui forment les Tuvalu, ont vu leur superficie augmenter. Eh oui! Au total, l'archipel aurait donc gagné 73 hectares de plus qu'il y a 40 ans. Pourtant, il est bien avéré que le niveau de la mer augmente de 3 cm par décennie, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale. Que penser alors? En fait, par endroits, l'érosion grignote le terrain, en d'autres, la sédimentation l'agrandit, un Tuvaluan peut voir sa propriété peu à peu engloutie par les eaux, alors que celle de son voisin gagne quelques mètres de plage. Il est facile de comprendre, dans ces conditions, que le Tuvaluan ait envie d'aller quérir ailleurs une situation plus stable. En 2014, pour la première fois, une famille de Tuvalu obtenait un droit de résidence en Nouvelle-Zélande, au motif de la montée des eaux due au réchauffement climatique. Le problème pour ces réfugiés, c'est de trouver des pays suffisamment accueillants. Or, il n'y a pas de statut pour le réfugié climatique ou environnemental. Il n'existe pas officiellement, il n'a donc aucun droit et ne peut recevoir aucune protection de la part des institutions internationales en charge des problèmes de migration forcée. En 1985, déjà, un rapport des Nations Unies évoque ces victimes des dégradations du climat et pose la question du statut de réfugié environnemental. Mais la communauté internationale a du mal à prendre position sur un phénomène perçu comme venant aggraver les problèmes de ce monde. Selon un rapport de l'ONU, 20 millions de personnes ont fui en 2008 leur lieu d'habitation suite à des catastrophes climatiques liées au réchauffement de la planète. Environ 80% d'entre elles se sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, comme au Bangladesh, où les populations du Sud fuient les tempêtes et les inondations vers le nord et affluent dans des bidonvilles, sans aucune aide. D'autres, quelques 20%, se sont déplacés en dehors de leur propre pays. C'est le cas des habitants du Nicaragua et du Honduras qui ont fui le cyclone Mitch en 1998 en s'installant illégalement aux États-Unis. C'est le cas aussi en Afrique où des populations qui fuient la sécheresse s'installent dans un pays voisin ou émigrent le plus souvent clandestinement en Europe. Quel que soit le nombre, le problème est déjà là. La Convention de Genève de 1951 définit précisément le concept de réfugié comme étant une personne victime de persécution ou voulant fuir une zone de guerre. Les déplacés climatiques n'entrent donc pas dans cette définition. Or, le statut de réfugié permet d'obtenir certains droits, comme la garantie de ne pas être renvoyé dans le pays où sa vie peut être menacée, le droit au travail, au logement, autant de garanties auxquelles les réfugiés climatiques ne peuvent pas prétendre. Enfin, le lien entre changement climatique, tsunami, montée des eaux, désertification et migration fait débat. Plusieurs chercheurs postulent que les dimensions économiques de ces départs imposent bien souvent de ne pas imputer la migration à la seule dégradation des conditions environnementales. Il montre ainsi que le changement climatique n'est pas en soi producteur de migration, mais qu'il aggrave des conditions de vie difficiles. N'est-ce pas formidable comme raisonnement pour botter en touche ? Donc, pas de décision. Et on considère dans ces instances internationales que le plus pratique serait des accords de pays à pays. Un accord, le premier, a été passé entre la Nouvelle-Zélande et Tuvalu. Il ne s'agit pas encore d'accords de migration environnementale, mais de migration économique. Il permet aux Tuvaluans de partir travailler en Nouvelle-Zélande et plus de 3000 Tuvaluans ont déjà émigré en Nouvelle-Zélande par peur d'être ensevelis sous les eaux. Petite anecdote, en octobre 2009, le gouvernement des Maldives a effectué un conseil des ministres sous l'eau afin de sensibiliser la communauté internationale au réchauffement climatique. L'archipel, lui aussi, risque de disparaître sous le niveau de la mer dans moins de 100 ans. Bien que nous ayons peu de chances de voir arriver sur notre sol des réfugiés en provenance des Tuvalu, j'ai quand même voulu évoquer pour vous ce cas de figure qui va dans l'avenir se multiplier puisque, décidément, notre machine infernale n'est pas prête de ralentir sa marche. Notre émission se termine. Voici quelques-uns des documents que j'ai consultés. Qu'est-ce qu'un réfugié climatique ? Sur le site Vie publique du 26 juin 2020. Sommet de Copenhague 2009, les réfugiés climatiques. Communiqué de France Terre d'Asile. Tuvalu sur Wikipédia, bien sûr. Polynésie, l'archipel des Tuvalu sauvés des eaux, point d'interrogation, sur Géo, par Gaëtan Lebrun en mai 2019. Et dans le Figaro, climat, 5 ans après la COP21, où en est l'accord de Paris, par Anne-Laure Frémont. Il y a un documentaire de Arte sur Tuvalu. Si le sujet vous intéresse, de Agnès Sinaï, Frédéric Castagnède et Yves Billy. Le titre, Paradis perdu, les derniers jours de Tuvalu. 51 minutes. Côté musique, vous avez entendu trois extraits d'un CD intitulé Global Soul, Yadjale de Oigen Ekwala, Psaïla de Candido et Cecilia, et enfin Po Maïna de Cyril Pahuni. Cette émission sera rediffusée demain à 8h15 et samedi à 16h. Elle est disponible en podcast sur le site de radiosaintafrique.com, les mensuels culturels. Avant de nous quitter, une citation de Camus à l'occasion d'un plaidoyer pour la paix après Hiroshima en 1945. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.
Les chroniques terriennes, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.